Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette réunion de la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Alors, avant de démarrer, merci de mettre en silencieux vos téléphones portables. Alors, avant de passer la parole à Jean-Pierre Mercier qui conduit la liste Lutte ouvrière aux côtés de Nathalie Arthaud, je voudrais. Pour commencer, vous présentez les camarades qui sont à la tribune et qui sont eux aussi candidats de la liste. Alors, à ma droite, Michel Darras, qui est technicien à la retraite. Dimitri Mosiers, qui est chauffeur de bus dans la Haute-Savoie. Édith Duquesnois, qui est ouvrière chez Toyota. Moi-même, Eric Pecker, et je travaille également chez Toyota. Et Jean-Pierre Mercier, ouvrier chez Stellantis à Poissy, à qui je passe la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je fais ça, c'est pour régler le son. Chers amis, chers camarades, dans quelques jours, grâce à la liste Lutte ouvrière, vous allez pouvoir voter pour une liste de travailleuses et de travailleurs. Pas pour des professionnels de la politique, mais pour des militants ouvriers qui ont à cœur dans leurs entreprises de s'adresser à leurs camarades et de les rassembler pour qu'ils se fassent respecter face à l'exploitation patronale. Vous allez pouvoir voter pour des militants convaincus que notre camp doit retrouver la conscience de sa force et le chemin de la lutte collective, non seulement pour arracher de meilleures conditions de travail, mais aussi pour renverser le système capitaliste qui nous enfonce dans les crises et dans les guerres. Même dans un pays riche comme le nôtre, la dégradation des conditions de vie du monde du travail crève les yeux. Les milliards s'accumulent dans les caisses patronales, 150 milliards d'euros l'an dernier pour les seuls groupes du CAC 40. Les profits, les dividendes, les fortunes ont explosé tous les records. Des PDG sont payés des millions, 100 000 euros par jour pour le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, mais ce n'est rien à côté des actionnaires de ce même groupe Stellantis qui ont perçu collectivement, tenez-vous bien, 18,3 millions d'euros par jour, samedi, dimanche compris. À côté de cela, les travailleurs triment du matin au soir sans arriver à régler leurs factures, à se loger, se chauffer, se nourrir correctement. Combien de femmes et d'hommes cassés par le travail sont livrés à la misère et à des retraites indignes. Et avec la dernière attaque du gouvernement qui vient de décider de baisser la durée de l'indemnisation du chômage de 18 à 15 mois et de durcir les critères pour en percevoir, combien de chômeurs vont tomber dans la misère? Combien de quartiers populaires où la jeunesse, après avoir été rejetée par l'école, se retrouve livrée à la petite délinquance et au trafic en tout genre. Et ce sont encore ces femmes et ces hommes qui sont pointés du doigt, accusés de ne pas vouloir travailler, de ne pas s'occuper de leurs enfants, d'abuser des médicaments, des arrêts maladie, des HLM, qui sont licenciés pour des broutilles, comme cette femme de ménage des toilettes de la gare Montparnasse à Paris, qui a été mise à la porte pour avoir récupéré 1 € de pourboire. Et Macron voudrait nous endormir avec les Jeux Olympiques, l'unité nationale et ces histoires de trêve sociale. La vérité, c'est que du côté du patronat, la lutte de classe ne s'arrête jamais. Nous mesurons tous aussi, de plus en plus concrètement, les ravages du capitalisme sur la nature. La crise climatique, les sécheresses, les pics de chaleur, les inondations et les souffrances terribles qu'elles provoquent, déjà dans certaines régions du monde, représentent une catastrophe. Mais regardez comment elle est éclipsée par une autre catastrophe. La guerre, ou plus exactement, les guerres. Avec le conflit en Ukraine, la guerre de tranchées est de retour sur le continent européen plus d'un siècle après la guerre de 1914. Les scènes que l'on associe à la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de villes, les alertes aériennes, les refuges dans les caves, sont devenues le quotidien des Ukrainiens depuis 2 ans. À Gaza, Les défenseurs du gouvernement israélien nous expliquent qu'ils mènent une guerre civilisée qui n'a rien à voir avec les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Et à quoi sert tout ce degré de civilisation ? À transformer Gaza en un champ de ruines, à plonger la population dans la terreur et à l'affamer. Quand ce bain de sang finira-t-il ? Combien de morts avant que les États-Unis décident de retenir réellement la main de leur allié Netanyahou ? Combien de carnages, comme ceux du camp de réfugiés à Rafah, bombardés sans pitié par deux fois ? Restera-t-il seulement un immeuble debout à Gaza ? Un hôpital ou une école capable de fonctionner ? Toutes ces tragédies, et je pense aussi à ce qui se passe au Soudan, au Kivu, à Mayotte, à Haïti, se déroulent aujourd'hui en 2024, alors que l'humanité n'a jamais eu autant de connaissances, de richesses et la capacité de les faire circuler et de les partager, alors qu'elle n'a jamais eu autant la possibilité de vivre en harmonie. Et il y a de la place et des moyens de vivre dignement pour tout le monde sur cette planète. Il y a de la place en Palestine et en Israël pour que les deux peuples vivent côte à côte. Et bien sûr que les Ukrainiens et les Russes peuvent vivre en bon voisinage et se mélanger. Cela s'est fait pendant des décennies où bien des gens ne se demandaient pas s'ils étaient Russes ou Ukrainiens. Oui, cet avenir-là est possible. Il est possible, mais cela nécessite d'en finir avec les causes profondes de ces guerres et d'en finir avec tous les fauteurs de guerre, à commencer par les plus importants qui gouvernent le monde. Je veux parler des États impérialistes occidentaux, des États-Unis et des principaux États européens, dont bien sûr la France. Car Poutine et Xi Jinping d'un côté, Biden et ses seconds couteaux de l'autre, sont les deux faces d'une même pièce. Les régimes russes et chinois sont des dictatures qui écrasent leur population sous un talon de fer, et oui, ils sont prêts à user de la force pour conserver leur sphère d'influence. Mais exactement comme les puissances impérialistes occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui ne s'en sont jamais privés pour établir leur domination coloniale et impérialiste, et qui continuent aujourd'hui. Et c'est ce qu'elles font en Ukraine. Aujourd'hui, si les États-Unis et les États européens s'impliquent autant dans la guerre, ce n'est pas pour aider les ouvriers et les paysans ukrainiens. Ils y sont pour leurs intérêts. Ils mènent cette guerre pour affaiblir la Russie et pour finir d'asseoir leur domination économique, politique et militaire sur cette région du monde. Rachat d'usines, mainmise sur les fameuses terres noires agricoles, endettement auprès des banques occidentales, une bonne partie de l'économie ukrainienne est déjà passée sous la coupe réglée des capitalistes occidentaux. Et la guerre accélère le mouvement. En plus d'être une formidable entreprise commerciale pour tous les marchands de canons, il y a ceux qui lorgnent déjà sur le marché de la reconstruction du pays. Pendant que les affaires vont bon train, toute une génération de jeunes travailleurs ukrainiens et de jeunes travailleurs russes sont en train de pourrir dans les tranchées. Alors non, les grandes puissances occidentales ne sont pas des puissances de paix. Elles mettent en avant le droit international et les principes de liberté et de démocratie uniquement quand ça les arrange et quand cela va dans leurs intérêts. Pour les Palestiniens, elle est où la liberté ? Il est où le droit international ? En réalité, ce que les grandes puissances appellent le droit international, c'est leur droit au pillage, leur droit de mettre en place des régimes à leur botte et de renverser ceux qu'elles jugent indociles, leur droit de maintenir les peuples et des régions entières sous leur domination. À une bien plus petite échelle, regardez comment l'État français se comporte vis-à-vis du peuple kanak. La Nouvelle-Calédonie n'est française que par la violence des troupes coloniales qui y ont débarqué il y a 170 ans, qui ont soumis les Kanaks en les massacrant quand ils se révoltaient et les ont spoliés de leurs terres et de leurs minerais. L'État français s'est ensuite évertué à rendre les Kanaks minoritaires dans un pays devenu le pays du nickel pour les capitalistes, faisant venir des dizaines de milliers de travailleurs de France, de gré et de force, avec les bagnards dont furent aussi les communards déportés comme Louise Michel. La population blanche et la population noire autochtone auraient tout à fait pu vivre ensemble. Leurs différences culturelles auraient pu être source d'épanouissement mutuel. Mais l'État français ne l'a pas permis. Il a utilisé les nouveaux arrivants contre la population kanak, la repoussant dans les terres, la marginalisant et l'appauvrissant toujours davantage.
La volonté actuelle du gouvernement d'imposer l'élargissement du corps électoral est dans la continuité de cette sale politique coloniale. Alors oui, la révolte que ce passage en force a provoquée est mille fois légitime. Et il revient bien aux Kanaks, dont la Nouvelle-Calédonie est la terre, de décider de leur avenir. C'est le même genre de bombes à retardement qui sont en train d'exploser à Mayotte, en Palestine, en Ukraine. Et ce sera le cas tant que perdureront les rapports de domination qui alimentent les inégalités, le rejet, la haine et le racisme entre les travailleurs et entre les peuples. Alors, il faut bien réaliser que les principaux fauteurs de guerre sont chez nous. Ce sont ceux qui nous parlent de concurrence, de guerre économique, de compétitivité. Ce sont nos propres dirigeants. Pendant quelques semaines, tous les chefs d'État vont nous amuser avec les Jeux Olympiques, l'esprit de concorde et de paix, et ça a déjà commencé avec le 80e anniversaire du débarquement. Mais après avoir plongé l'humanité dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils nous préparent la Troisième. Les deux géants que sont la Chine et les États-Unis sont en train d'accumuler tout un arsenal pour se faire la guerre, exactement comme les pays, comme les États européens, qui sont eux aussi ouvertement va-t-en-guerre. Un des grands sujets de cette campagne est d'ailleurs la participation à l'effort de guerre en Ukraine. C'est l'Europe de la défense et la transformation de l'économie européenne en économie de guerre. Et j'en profite pour préciser que nous ne sommes sûrement pas de ceux qui, comme le Parti communiste, la France insoumise ou le Rassemblement national, revendiquons l'indépendance de l'armée française et de l'impérialisme américain. Que la défense et l'armée soient placées sous l'égide de la France, de l'Union européenne ou des États-Unis au travers de l'OTAN, elles défendront toujours les intérêts de la bourgeoisie, jamais ceux des travailleurs. Elles resteront aux mains de généraux qui se sont illustrés dans toutes les sales guerres coloniales, aux mains de politiciens qui se moquent bien que des ouvriers meurent au travail ou crèvent au chômage. Nous sommes censés suivre ces chefs de guerre comme un seul homme, mais déjà aujourd'hui, ils n'en ont rien à faire de notre peau. Et c'est à eux qu'il faudra la confier demain si le pays était attaqué. Tant que la population ouvrière ne peut pas contrôler l'armée et ses officiers, tant qu'elle ne peut pas décider elle-même si une guerre mérite d'être menée, eh bien il faut refuser de marcher au pas et refuser de tomber dans le piège de l'unité nationale. Si le gouvernement et l'armée veulent nous embrigader, ce sera pour que l'on meure pour les profits de la bourgeoisie française. Ce sera pour que l'on défende leur ordre impérialiste, infâme, meurtrier et barbare. Alors pas un seul homme pour la guerre des capitalistes, pas un sou de plus pour les marchands de canons. Et comme le disent les paroles de l'international, s'ils s'obstinent ces cannibales à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Dans cette campagne, nous ne ferons pas miroiter aux yeux des travailleurs l'espoir que ces élections européennes pourraient changer leur sort. Cela, aucune élection ne pourra jamais le faire. Et nous laissons aux politiciens professionnels le sale boulot de mentir aux travailleurs. La vérité est que le Parlement européen, tout comme le Parlement français, ne sont que des paillassons pour le grand capital. Contre Macron et l'extrême droite et la droite, nous n'alimenterons pas non plus le débat stérile sur plus d'Europe ou moins d'Europe. Et nous ne perdrons pas notre temps à discuter s'il faut sortir de l'Europe capitaliste pour nous barricader dans une France tout aussi capitaliste. Car notre conviction, c'est que rien ne changera fondamentalement pour le monde du travail, sinon en pire, tant que la grande bourgeoisie sera aux commandes. Car l'heure n'est plus au rafistolage. Nous n'inverserons pas le cours réactionnaire de la société en prenant ces problèmes isolément, en essayant de les régler petit bout par petit bout. Il faut détruire cette société capitaliste, renverser la grande bourgeoisie qui domine du haut de ses multinationales, et en finir avec la logique capitaliste, les lois du marché et de la concurrence, qui en plus d'être source d'un gâchis inouï, dégénèrent en affrontements sanglants. Oui, il faut que les travailleurs renouent avec la conscience que c'est à eux de diriger la société. Alors aidez-nous à faire entendre ces idées fondamentales le 9 juin en votant pour la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. comme Macron ou Glucksmann, le candidat du Parti socialiste, essaye de vanter les vertus de l'Union européenne en la décrivant comme un partenariat politique et économique sont ridicules. Vous remplacez le mot « partenariat » par « foire d'empoigne entre brigands » et là, oui, vous avez la réalité de l'Union européenne. L'Union européenne, tout comme l'État français, est une institution construite par et pour les capitalistes. Et elle ne peut pas être autre chose qu'une juxtaposition d'égoïsmes nationaux. La volonté de construire un marché européen pour ne pas étouffer dans son petit marché national n'a jamais fait disparaître la concurrence entre les groupes capitalistes européens et leurs États. L'Union européenne est tout sauf l'union fraternelle des peuples européens. C'est une union qui n'a protégé ni les droits les plus élémentaires des travailleurs, avec un salaire minimum n'atteignant même pas les 500 euros en Bulgarie, ni protégé les droits des femmes, où est encore aujourd'hui nié le droit à l'IVG à Malte et en Pologne. Et c'est une union qui n'a absolument pas fait reculer les idées nationalistes. Il y a désormais des clones de Le Pen et de Mélanie un peu partout, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche. Dans tous les pays membres de l'Union européenne, les idées souverainistes, protectionnistes et chauvines font un retour en force. Ici en France, malgré les rivalités politiciennes, un point fait consensus entre tous les candidats. La souveraineté française serait menacée par les traités de libre-échange. En cœur avec le patronat, ils parlent tous de nos entreprises, de notre agriculture, de notre industrie, de notre souveraineté sanitaire et énergétique. Mais qu'y a-t-il derrière ce « nous » ? Quand est-ce que les ouvriers d'Airbus, de Net, de Lactalis, de Carrefour ont leur mot à dire sur la marge de leur entreprise, sur leur salaire, sur leur emploi, sur leurs conditions de travail ? Est-ce qu'ils peuvent seulement exprimer leur avis sur ce qu'il faut produire et de quelle manière, et surtout en décider ? Bien sûr que non. Parce que nous avons beau faire le travail et y passer une bonne partie de nos vies, les entreprises restent la propriété privée de patrons et d'actionnaires qui en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent les vendre à un concurrent ou les liquider si elles ne leur rapportent plus assez. À leurs yeux, les travailleurs ne sont que des pions qu'ils peuvent exploiter, déplacer ou jeter. Leur patrie à eux, c'est celle de leur coffre-fort. Alors, quand les uns ou les autres nous parlent de souveraineté française, ils défendent en réalité la souveraineté du grand patronat, celle des Peugeot, des Mulier, des Bolloré, des Michelin, des Leclerc. Ils cachent le fait que la grande bourgeoisie, les actionnaires et les spéculateurs qui ne jouent aucun rôle utile dans la production, décident de tout, alors que les travailleurs que nous sommes et qui faisons tout le boulot, nous ne décidons de rien. La souveraineté, camarades, les travailleurs ne la trouveront que dans la révolution ouvrière, c'est-à-dire quand ils auront exproprié la bourgeoisie et pris le pouvoir politique, et quand les travailleurs dirigeront eux-mêmes la société à tous les niveaux, au niveau de la France, au niveau de l'Europe et même du monde entier. Dans cette campagne, les frontières sont défendues, y compris par les partis de gauche, qui prônent exactement comme le RN, plus de protectionnisme, en expliquant qu'il faudrait craindre la concurrence des ouvriers mal payés d'Ukraine, de Moldavie ou de Chine. Mais c'est précisément parce que le grand patronat a toujours mis en concurrence les exploités des différents pays que les militants ouvriers, socialistes et communistes, ont construit à plusieurs reprises des internationales ouvrières. C'est pour cela qu'ils ont cherché à coordonner leurs luttes et leurs revendications par-delà les frontières, comme lors de la journée du 1er mai ou celle du 8 mars consacrée à la lutte des femmes. C'est pour cela que tous les partis ouvriers, lorsqu'ils étaient encore révolutionnaires, était d'abord et avant tout internationaliste. L'internationalisme de la classe ouvrière, la conscience que tous les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts, est une réalité sociale et humaine depuis toujours. Karl Marx écrivait « La nationalité du travailleur n'est pas française, anglaise, allemande. Elle est le travail, le libre esclavage, le trafic de soi-même. Son gouvernement n'est pas français, anglais, allemand. C'est le capital. L'air qu'il respire chez lui n'est pas l'air français, anglais, allemand, c'est l'air des usines. » C'était en 1845. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où n'importe quelle entreprise fonctionne avec des matières premières et des composants qui viennent du monde entier, comme ses salariés d'ailleurs. Et c'est cette réalité-là que tous les politiciens de la bourgeoisie cherchent à dissimuler, qu'ils soient de droite, d'extrême droite ou de la gauche. Et d'un seul et même élan, tous de nous empoisonner avec leur patriotisme économique et des idées comme le produire français, qui sont véritablement des stupidités. Prenez l'exemple de l'électricité, soi-disant française. Les politiciens de gauche, de droite et d'extrême gauche oublient, comme par hasard, de dire que les centrales nucléaires françaises fonctionnent grâce au pillage de l'uranium d'Afrique, pillage protégé sur place par l'armée française. L'entreprise de Toyota à Valenciennes, où les camarades travaillent, où est produite la Yaris, la Toyota Made in France, comme dit la pub. C'est un groupe à capitaux japonais. Toute une partie des installations vient du Japon. Mais l'entretien annuel est assuré par une entreprise britannique, employant majoritairement des salariés polonais. Les colonnes de direction sont fabriquées en République tchèque. Comme dans la plupart des entreprises, toute une partie des fameuses puces électroniques, indispensables, viennent de Taïwan. Les mousses insonorisantes viennent de Turquie. Une majorité de pièces est transportée à travers l'Europe par des chauffeurs routiers tchèques, polonais, ukrainiens ou lituaniens. Les 5000 travailleurs de l'usine, dont toute une grande partie sont des intérimaires, viennent du Maghreb, du Sénégal, du Mali, de Guinée-Conakry, d'Afghanistan. Et leurs fiches de paie sont faites en Pologne. Alors non, dire qu'on produit français n'a aucun sens. En revanche, il est bien certain qu'on produit sous les ordres des capitalistes avec leur organisation à l'échelle internationale. Alors, on peut la trouver stupide et aberrante, et elle l'est par bien des aspects. Mais si on en veut une autre qui corresponde aux intérêts des travailleurs du monde entier et qui respecte la planète, eh bien, il faut exproprier les actionnaires et prendre le contrôle des multinationales. Tout le reste, camarades, c'est du baratin qui revient à mettre les travailleurs à la remorque de la bourgeoisie. Les plus révoltants de l'Union européenne, c'est qu'elle est en train de se barricader. En 2014, l'Union européenne comptait 300 km de barrières et de murs frontaliers. Elle en compte aujourd'hui plus de 2000. Partout, l'Union européenne est sillonnée par des policiers, des douaniers, des militaires pour faire la chasse à des femmes et des hommes qui ne demandent qu'à gagner leur vie. Les dirigeants de l'Union européenne n'en sont pas encore à déporter les travailleurs immigrés sans papier au Rwanda et à supprimer le droit d'asile comme l'a décidé le Royaume-Uni. Mais leur politique s'en rapproche. L'Union européenne verse des millions d'euros à la Libye pour payer les gardes-côtes et retenir les réfugiés dans des camps, ce qui fait prospérer les mafias qui en profitent pour racketter, torturer et mettre en esclavage ceux qui ne peuvent pas payer. En 2023, plus de 2500 morts ont été recensés dans des naufrages en Méditerranée, sans compter tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces. C'est une politique criminelle qui a sa déclinaison dans tous les pays. En France, Macron, qui s'est fait élire par deux fois sur la promesse de faire barrage à l'extrême droite, a fait voter une loi anti-immigrés inspirée par le programme de Le Pen. C'est une attaque de plus contre tous les travailleurs. Car attaquer les immigrés, c'est s'en prendre à des femmes de ménage, à des ouvriers du bâtiment, à des cuisiniers, des manutentionnaires, des livreurs, des aides à domicile. C'est s'en prendre à des travailleurs qui se lèvent tôt pour gagner leur vie dans les métiers les plus pénibles et les plus mal payés. Et quand on appartient au monde du travail, on connaît le prix de cette exploitation. Alors ne laissons pas le gouvernement et les petits roquets d'extrême droite faire passer nos camarades de travail pour des profiteurs, voire des menaces. Pointer du doigt les immigrés, les présenter comme des délinquants ou des menaces, est une spécialité du Rassemblement national. Force de constater qu'un certain nombre de travailleurs autour de nous sont tentés de donner leur voix à Bardella et à Le Pen. Eh bien, nous devons discuter avec eux, discuter et discuter pour les faire changer d'avis, car ils sont loin de tous partager les idées racistes et xénophobes du RN. Beaucoup de ceux qui sont tentés par ce vote le font par dépit et dégoût de ce qu'ont fait la gauche, la droite et les deux ensemble avec Macron. Du fait que le RN n'a jamais été au gouvernement, qu'il a longtemps été ostracisé par toutes les cliques politiciennes, il jouit d'une image anti-système. Mais il suffit de jeter un coup d'œil à la liste qu'il présente aux Européennes pour se rendre compte de l'escroquerie. Prenez la tête de liste, Jordan Bardella. Il essaye de se faire passer pour un homme du peuple sous prétexte qu'il a vécu en HLM dans son enfance. Mais que connaît-il de la vie de la classe ouvrière, ce petit bureaucrate du RN, qui n'a jamais travaillé de sa vie, est devenu, à 20 ans, assistant parlementaire et politicien professionnel. La deuxième de liste, c'est Malika Sorel. Elle est sortie de Sciences Po, a été conseillère de Villepin et de Sarkozy, et est tellement anti-système qu'elle a été nommée par ce dernier membre du Haut Conseil à l'intégration. Le troisième de liste, c'est Fabrice Leggeri, très haut fonctionnaire, et pas des plus reluisants, puisqu'il a dirigé l'agence Frontex, qui se chargeait de rejeter à la mer les réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe pour tenter de gagner leur vie. Puis vient Thierry Mariani, un bon celui-là, politicien professionnel de droite depuis 35 ans, qui a occupé tous les postes électifs possibles et imaginables de la République bourgeoise, jusqu'à devenir ministre des Transports de Sarkozy-Fillon en 2010, et qui plus est, grand adorateur de Poutine. Nos candidats, à nous, à lutte ouvrière, ils sont à l'opposé. Ils sont ouvriers de l'automobile ou de la chimie, brancardiers ou infirmières des hôpitaux, agents de la propreté ou techniciens, enseignants, cheminots. C'est vrai, il faut dire la vérité, le RN a bien un cheminot sur sa liste. Il s'appelle Pierre Pimpi. Il est directeur général adjoint de l'établissement public de sécurité ferroviaire. Un patron, quoi. Nos candidats, à nous, à la SNCF, ils sont conductrices de train, ouvriers de maintenance, agents de gare ou mécaniciens. Ils ne sont pas du même côté de la barrière. Oui, voilà de quoi est composée la liste du Rassemblement national. Hauts fonctionnaires, avocats, magistrats, flics, anciens ministres, politiciens professionnels, élus et permanents du parti, bref, un vrai ramassis de notables. Voter pour cette liste du RN permettra peut-être de lancer ou relancer la carrière de ces notables, mais certainement pas de s'en prendre à un système capitaliste dont ils sont tous de chauds partisans. À commencer par Marine Le Pen elle-même, qui il y a quelques semaines encore a déclaré sa flamme au patronat sur France 2 en expliquant, je cite, « Je suis pour l'économie de marché », traduction, « Je suis pour le capitalisme ». Je considère que ce sont les entreprises qui créent les richesses et que l'État n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, faux. Ce ne sont pas les entreprises qui créent les richesses, mais les travailleurs. La preuve, quand ils sont en grève, plus rien ne fonctionne. Et soyez-en certains, avec elle, le code du travail ne pèsera pas lourd. Le RN se prétend être un parti ouvrier. Mais là aussi, rien n'est plus faux. Avoir une base électorale populaire n'a rien à voir avec être un parti qui défend les intérêts du monde du travail. De ce point de vue, le RN est tout l'inverse d'un parti ouvrier. C'est un parti profondément bourgeois, qui défend l'ordre établi, le système capitaliste, les patrons, grands et petits, qui n'a jamais un mot contre l'exploitation, qui défend la baisse des cotisations patronales et les cadeaux fiscaux au patronat, qui a voté contre les augmentations du SMIC et contre la hausse de l'impôt sur la fortune pour les plus riches, qui est contre les grèves, qui a toujours soutenu la répression contre les manifestations ouvrières et est allé tout récemment ramper devant le MEDEF pour essayer de le convaincre qu'avec lui aux manettes, les affaires des bourgeois ne se porteront que mieux. La vérité est que le Rassemblement national, diffuse la plus dangereuse, la plus pernicieuse des idéologies, celle de la division des travailleurs dans le but de les affaiblir face au gouvernement et au patronat. Il répand à chacune de ses prises de parole le poison de la xénophobie, incitant les travailleurs à s'en prendre à leurs frères de classe d'origine étrangère pour détourner leur colère des seuls vrais responsables de l'exploitation, du chômage, des bas salaires et de la pauvreté, c'est-à-dire le grand patronat. Alors non, le vote pour le RN n'est ni un vote de protestation, ni un vote anti-système. Alors je dis à tous les travailleurs désorientés qui croient exprimer leur révolte et leur colère en votant RN, tu te trompes. En votant Bardella, tu votes pour ton patron, tu votes pour ton exploiteur, tu votes pour ton futur licencieur, tu votes contre tes camarades de travail et tu votes contre toi-même. Alors si tu veux exprimer ta colère, fais-le clairement, sans ambiguïté, en votant pour une liste de travailleurs, la liste Lutte Ouvrière. Où l'on pourrait circuler librement de l'Atlantique à l'Oural, de la mer du Nord au Bosphore et à la Méditerranée, et s'enrichir de la diversité des cultures, est une idée fantastique. Mais le morcellement de la planète, la persistance et même la multiplication des frontières et du nombre d'États font partie des aspects les plus réactionnaires du capitalisme. Parce que la puissance des forces productives a dépassé depuis fort longtemps les limites imposées par toutes les frontières. L'avenir, même pour les peuples opprimés, n'est pas à la création de nouveaux États, mais à leur fédération et à l'unification de l'économie et de la société à l'échelle de continents entiers. Alors oui, notre perspective est bien celle d'une Europe sans frontières, plus même. Nous aspirons à un monde où chaque être humain pourra dire « Mon pays, c'est la Terre, ma patrie, c'est l'humanité ». Ce nouveau monde ne pourra naître que par une nouvelle révolution sociale. En son temps, la révolution bourgeoise, la révolution française, a fait tomber beaucoup de frontières. La révolution ouvrière pourra toutes les abattre, parce qu'en plus de supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, elle pourra supprimer la domination des pays riches sur les pays pauvres. Par rapport à cette perspective, les élections au Parlement européen ne sont bien sûr qu'une toute petite péripétie. Mais dans cette période où les larbins de la bourgeoisie, les nationalistes, les souverainistes et les racistes ont micros ouverts, faisons entendre cette perspective. Montrons qu'il y a des femmes et des hommes qui voient un tout autre avenir pour l'humanité que cette guerre de tous contre tous à laquelle ils nous condamnent. Montrons qu'il y a des femmes et des hommes qui ne se découragent pas et se réclament des intérêts politiques des travailleurs et de la perspective communiste révolutionnaire, c'est-à-dire de la mise en commun des richesses et des moyens de les produire pour enfin répondre aux besoins de chaque être humain sur cette planète. Et après nous être rassemblés dans le vote, eh bien, rassemblons-nous pour construire le parti communiste révolutionnaire internationaliste qui manque cruellement à la classe ouvrière. Pas un parti de politiciens qui demande aux travailleurs de voter en expliquant qu'ils s'occuperont de tout une fois élus. Ces partis, il y en a beaucoup, ils existent déjà et n'ont pas d'autre objectif que d'accéder à la mangeoire pour servir la soupe aux capitalistes. Il faut au contraire un parti d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, de chômeurs, de retraités du monde du travail, présents dans le plus grand nombre d'entreprises du pays, non seulement pour contribuer à ce que les travailleurs se défendent dans la lutte de classe pour les salaires, l'emploi, les conditions de travail, mais aussi et surtout pour qu'ils se forgent une opinion politique révolutionnaire. Il faut un parti de femmes et d'hommes des classes populaires conscients d'avoir à changer les choses par eux-mêmes, parce que c'est toujours d'en bas, du petit peuple, des travailleurs, des exploités que sont nés les véritables changements. Ce parti doit bien sûr s'appuyer sur la jeunesse ouvrière et intellectuelle qui cherche le chemin de la révolution. Et nous lui disons à cette jeunesse que ce chemin passe obligatoirement par la mobilisation massive des exploités. Car sans les millions de travailleuses et de travailleurs, il est non seulement impossible de monter à l'assaut des forteresses du grand capital et de les transformer en place forte de la révolution, mais il est aussi impossible de faire le poids contre l'État et ses forces de répression qui défendent les intérêts de la bourgeoisie. Les opprimés et les exploités peuvent endurer bien des souffrances et vivre au milieu des horreurs parfois des mois, des années, voire des décennies. Mais il finit toujours par y avoir des révoltes et des insurrections, c'est-à-dire des moments où des millions de femmes et d'hommes découvrent leur pouvoir d'agir collectivement et où tout devient possible. Alors qu'on soit comme aujourd'hui, dans une période de recul, ou comme demain, dans une remontée des luttes, le seul objectif qui vaille le coup est celui du renversement de la société capitaliste. Eh bien, défendons-le avec ténacité et enthousiasme au cœur du monde du travail, dans les entreprises et dans les quartiers populaires. Et défendons-le surtout avec fierté. Parce que nous avons toutes les raisons d'être fiers, de représenter un courant politique qui, de façon ininterrompue depuis que la classe ouvrière existe, défend la perspective de l'émancipation des travailleurs. Fiers d'être les héritiers des combattants et des révolutionnaires du mouvement ouvrier. Fiers de n'avoir jamais trahi, de ne jamais avoir abandonné nos idées, de ne jamais avoir renoncé à changer le monde. Fiers de brandir le drapeau rouge face au drapeau bleu-blanc-rouge et à tous les drapeaux nationaux. Fiers de faire de l'international le champ de la lutte des prolétaires du monde entier, notre chant face à la Marseillaise et à tous les hymnes nationaux, et fiers d'être des révolutionnaires et non des réformistes, ces faux amis des travailleurs qui s'accommodent de vivre dans un système fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme et qui cherchent, avec plus ou moins de sincérité, à desserrer un peu les chaînes qui tiennent prisonniers les travailleurs. Eh bien nous, camarades, nous ne voulons pas desserrer les chaînes, nous voulons les briser, nous voulons faire la révolution sociale, nous voulons abolir ce système pourri, le jeter dans les poubelles de l'histoire et contribuer à construire une société humaine et fraternelle, en un mot, une société communiste. Avant ces grands bouleversements sociaux qui, nous en sommes certains, ne manqueront pas d'arriver, eh bien terminons cette campagne avec l'enthousiasme et la détermination que nous apporte notre optimisme révolutionnaire. Et soyons conscients que chacun des votes qui se portera sur notre liste sera un pas vers la reconnaissance du programme de la révolution ouvrière, et ça, camarades, ça comptera pour l'avenir. Alors, bon courage à tous pour ces quelques jours de campagne qui nous restent. Votez et faites voter pour la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, vive la classe ouvrière et vive le communisme.